Impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous reprenons le cours de la chronique africaine et contemporaine de la lutte de Méré et de ses compagnes qu'Emmanuel Dongala imagine dans ce récit intitulé « Photos de groupe au bord du fleuve » paru aux éditions Actes Sud en 2010. Nous avons laissé ces femmes qui font le dur métier de casseuses de cailloux aux prises avec les camionneurs qui les exploitent. En effet, elles refusent de brader leurs sacs de cailloux et exigent d'être payées le double de la somme initiale. Il s'en est suivi une mémorable bagarre, à la suite de laquelle Laurentine Paca a fait une photo de groupe qui immortalise leur solidarité. Elles ont conscience que la pierre est leur pétrole. 2 heures plus tard, les acheteurs de pierre sont revenus, accompagnés d'un commando armé. Le colonel les insulte et hurle que leur refus de vendre est un sabotage, un acte délibéré pour ternir l'image de son président à l'étranger. Yamoukietou explose.
Si le président a tant besoin de ces sacs, qu'il nous les achète à 20 000 francs, ce sont nos sacs, c'est nous qui décidons. Ce n'est pas à lui de me dire la couleur du slip que je dois porter demain parce que c'est mon slip. De la même façon, ces cailloux sont nos cailloux.
Gros éclat de rire du côté des troupes, soudain rincaillardis par des « Bravo, c'est ça, bien dit !» Cette fois, le colonel se fâche vraiment. Il crie « Outrage au chef de l'État !» et ordonne à ses hommes d'avancer. Itella demande ce que signifie « Outrage au chef de l'État ». Et Méré lui explique que cela veut dire qu'on a insulté le président de la République. En entendant cette explication, Moukietou se fâche encore plus et hurle à l'endroit du colonel.
« Va dire à l'outragé président que je préférerais encore 1000 fois lui donner mes fesses gratuitement plutôt que de lui donner nos sacs pour 10 000 francs !»
C'était le mot de trop. Le colonel ordonne de réquisitionner les sacs et fait charger ses hommes. C'est la curée. Batatou est atteinte d'une balle à la poitrine. Et Issou a le bras gauche fracturé. Laurentine Paca, le front ouvert par un coup de crosse. D'autres manquent à l'appel. Moukietou, Moyalo, Osolo, les soldats les ont embarqués. Batatou est emmené à l'hôpital. Toutes se cotiseront pour payer les frais. Mabileko et Méré prennent chacune en charge un de ses 2 enfants. Le lendemain, elles se retrouvent devant le commissariat pour exiger la libération de leurs camarades. Elles se sentent soutenues par une foule qui les a rejointes. Après des discussions inabouties avec un colonel de police, c'est avec surprise que Méré voit le maire de la ville arriver, accompagné du député Tito, ex-mari de Méré. Contre toute attente, les portes de la prison s'ouvrent. La première à sortir est Moukietou, un large sourire aux lèvres, malgré son visage meurtri par les coups. Osolo, qui la suit, boitille, mais on ne sait pas si c'est sérieux. Tandis que la dernière à apparaître, Moyalo, se lance dans un beau discours en lingala, malgré son œil poché, remerciant toutes les femmes d'être là et les exhortant à ne laisser à aucun prix ces voleurs prendre leur sac de pierre à 10 000 francs. En tant que porte-parole, Méré prononce ses derniers mots. Ne pas s'arrêter à cette première victoire, le combat doit continuer. Demain sera organisée une grande marche sur ce même commissariat et un campement jusqu'à la restitution des sacs volés. Ces paroles sont accueillies par un tonnerre d'applaudissements. Septième jour de cette lutte, alors que Méré se fait dorloter par sa tante Turia.
Tout ce que je sais, c'est que je n'irai pas au chantier aujourd'hui, que les enfants n'iront pas à l'école non plus. À part cela, rien n'est programmé vraiment. Je suis la porte-parole, peut-être la présidente, comme l'avait suggéré Mogietou, mais présidente de quoi ? Je ne sais même pas avec qui discuter, puisque nous n'avons plus en face de nous nos interlocuteurs habituels, les chauffeurs et les acheteurs qui les accompagnaient. Il faudra improviser, tracer le chemin tout en cheminant. Pendant que je m'habille machinalement, l'urgence immédiate me saute à l'esprit, celle de prendre des nouvelles des blessés. J'appelle Laurentine Paca.
Ça va mieux, Mirée, mais c'était horrible quand je me suis mirée. Je n'ai pas eu de chance. Ma blessure est en plein milieu du front, avec plein de points de suture. Je suis devenue laide, Mirée, défigurée. J'aurais préféré mille fois avoir un bras cassé plutôt que de porter une si vilaine balafre sur mon visage. C'est pire que celle d'Anne-Marie. Est-ce que la cicatrice disparaîtra une fois la plaie guérie? Penses-tu que je pourrais trouver un bon fond de teint pour la masquer en attendant?
Hey yo! Hey yo, l'inga de fini? Defal dangan danga samarata. Hey yo!
Au cours d'une conversation téléphonique houleuse avec son ex-mari Tito, Méré apprend que le chantier interrompu par leur conflit est prioritaire, car l'aéroport doit accueillir les premières dames d'Afrique pour améliorer la condition féminine.
Pour améliorer la condition féminine, a-t-il dit ? Mais alors pourquoi la première dame de notre pays n'est-elle pas venue nous voir sur notre chantier ? Je regarde mes mains de jeune femme de 30 ans, ces mains dont les cales deviennent de plus en plus visibles à force de cogner sur des cailloux, malgré les pommades avec lesquelles je les masse chaque soir après les avoir trempées dans de l'eau chaude. Améliorer notre sort? Combattre le sida? Ah, comme cette première dame m'avait fait mal, juste après le décès de ma sœur, morte de la maladie. Je l'avais écoutée à la radio. C'était une réunion pour éduquer les fiers combattants de notre vaillante armée, pour qui le viol était devenu une routine. Je demande à nos soldats de ne pas violer. Sachez que si vous violez, vous risquez d'être contaminé par le virus à votre retour. Ne violez pas, non pas parce que violer est un acte de violence, un crime passible des sanctions les plus sévères, mais ne violez pas parce que les femmes, coupables comme toujours, risquent de vous contaminer. Vous, braves soldats. J'ai eu mal pour ma sœur, qui, de victime, était devenue coupable. Non, je me passerai bien des réunions de ces femmes de chef.
La détermination de Méré vient de son histoire personnelle avec Tito. Voilà comment elle l'exprime.
Quant à Tito, il ne se rend pas du tout compte à quel point il a gâché ma vie. C'est à cause de lui que je me retrouve aujourd'hui casseuse de pierre. Le prix d'une séance de jambes en l'air, d'une seule. Le jour où il avait raté son bac... J'étais rentrée chez lui vierge, j'en étais ressortie dévirgée. Mais je n'avais alors rien soupçonné.
Elle l'a cru, quand il avait déclaré
« Je suis l'homme, je vais prendre mes responsabilités. Je vais aller me présenter à tes parents et leur dire que je suis le père de l'enfant. Ne t'inquiète pas, Méré, tout ira bien. Je te protégerai. »
Cette protection s'était transformée en violence, dès qu'elle avait exigé qu'il se protège lors de leur relation intime. Puis elle était partie avec ses deux enfants et avait pris en charge sa nièce quand sa sœur Tamara était morte du sida.
Tout à coup, ma colère monte. Pour qui se prend-il ce Tito? Après tout, je suis allée à l'école, j'ai étudié l'histoire et les mathématiques. Et si ce n'était pas à cause de ce foutu mariage précoce, j'aurais passé mon bac. Et puis, pourquoi ce mépris des femmes qui dégoulinent de chaque mot tombant de sa bouche? Ça fait quoi si ces femmes sont analphabètes? Pense-t-il qu'il faille un doctorat pour être une femme debout, une femme de courage? Peut-être ne le sait-il pas, mais des tas de femmes à l'éducation modeste ont changé l'histoire de leur société. Je pense à ces femmes de Guinée qui, les premières, avaient osé défier le dictateur Sékou Touré en organisant une marche sur son palais. Et aussi à ces femmes maliennes qui avaient bravé un autre dictateur, Moussa Traoré. Je pense aux mères des disparus chiliens sous les fenêtres de Pinochet, aux femmes d'Argentine qui avaient manifesté pour leurs enfants enlevés. Plus j'y pense, plus je suis exaltée. Et les noms de femmes fortes de l'histoire me reviennent. Kim Pavita, qui dans l'ancien royaume du Congo avait mené des troupes contre l'occupant portugais. Rosa Parks, qui avait refusé de céder sa place de bus à un blanc dans une ville du sud des États-Unis d'Amérique. L'évocation de tous ces noms me monte un peu à la tête, et je me sens proche d'elle. Certes, je ne me voyais pas à la tête d'un cortège de femmes marchant sur le palais présidentiel, mais ce qui est sûr, c'est que ni Tito, ni toutes les premières dames d'Afrique en conclave ne nous feraient vendre notre sac de cailloux à 10 000 francs.
Puis, la sonnerie du SMS du téléphone avait interrompu ses pensées. Atareta la prévenait. Urgent. État Batatou très inquiétant. Rappelle vite. Le frère d'Osolo, Armando, dont le métier est chauffeur de taxi, l'emmène à l'hôpital. Là, il leur est impossible d'approcher Batatou, n'étant pas de la famille alors qu'aucun parent ne s'était manifesté. Armando la suivant, Atareta la conduit au lieu où sont assemblées les femmes du chantier. Elle l'amène vers le célèbre manguier de l'hôpital. Un arbre au tronc épais et robuste, dont la vaste ombre projetée par son épais feuillage protège du soleil mieux qu'un parasol de toile. À cause de l'air frais qui circule sous la ramée, c'est devenu le lieu où les gens préfèrent le pied de grue en attendant l'heure de visite des malades plutôt que d'aller s'asseoir dans l'étouffante salle d'attente non climatisée. Aujourd'hui, ce sont ses camarades de chantier qui ont pris d'assaut la place, assises par terre sur l'herbe, sur de petits bancs ou des sièges de fortune. Sa surprise est grande de voir qu'elles sont à l'heure. Cette ponctualité inhabituelle témoigne de la force de leur engagement. Elles sont toutes là. Modal, Osolo, Mouquietou, les embastillés de la veille au soir, Laurentine Paca, qui malgré les points de suture qui marquent son front, a tout de même réussi à se maquiller convenablement. Issou et son bras plâtré. Bileko avec Odo, l'enfant de Batatou. Bilala, leur sorcière bien-aimée. Il y a aussi les compagnons de route. Le toujours présent mari de Laurentine, le fils de Mouquietou, et tant d'autres qu'elle ne connaît pas. Lors de cette réunion, il est décidé d'exiger l'autorisation de rendre visite à Batatou et de récupérer leur sac. Après avoir envisagé de marcher sur le commissariat de police, plusieurs voix expriment leur crainte que les soldats tirent sur les manifestants. Méré se résigne et propose de traiter directement avec le commissaire qui a emprisonné ses sœurs hier. Une délégation de 6 personnes est nommée pour le rencontrer.
Flash info.
Flash info. Flash info.
Au Zimbabwe, les militants du parti au pouvoir ZANU-PF ont lancé une collecte forcée de dons auprès des grandes compagnies nationales afin de fêter dans le faste le 85e anniversaire du président Robert Mugabe. Dans le menu de la fête figurent 2000 bouteilles de champagne Mouette et Chandon ou Bollinger, 1961, 5000 bouteilles de Johnny Walker et de Chivas. 8000 langoustes, 100 kilos de grosses crevettes, 4000 portions de caviar noir, 3000 canards, 16 000 œufs, 3000 tartes au chocolat et à la vanille, 8000 boîtes de bonbons Ferrero Rocher, 80 vaches, 70 chèvres et 12 porcs seront abattus pour le banquet.
Le lendemain matin, très tôt, un commando de 3 personnes vient arrêter Méré chez elle et l'embarque, menottée dans une fourgonnette avec sirène, gyrophare et débarrage sur les chapeaux de roue. Elle se retrouve dans la cour du ministère de la Femme et des Handicapés.
De toute ma vie, je n'étais jamais entrée dans le bureau d'un ministre et encore moins n'avais rencontré un ministre en chair et en os. Avec mes tongs bon marché en plastique, mon jean sale et effiloché par endroits, mon t-shirt taché de sang et d'une couleur pisseuse à force d'absorber la sueur et les poussières ocre du chantier, avec ma lèvre tuméfiée et mes cheveux ébouriffés, intimidée, je m'arrête à mi-chemin entre la porte et le bureau du ministre.
La ministre est abasourdie et s'excuse auprès de Méré du traitement que lui ont infligé les policiers. Elle l'invite à revenir la rencontrer après s'être lavée et habillée. Elle exige que les policiers la traitent avec dignité et respect et ordonne qu'ils la raccompagnent dans sa voiture avec motard de service. Après avoir hésité sur la tenue adéquate, elle opte pour un ensemble en lin marron foncé et un caraco beige. Elle choisit de porter des boucles d'oreilles en argent. Elle a un air de femme professionnelle et compétente. Armando la dévore des yeux. Elle se rend compte que sa présence ne lui est plus totalement indifférente. Elle savoure le fait d'être accompagnée au ministère dans une voiture de luxe avec garde du corps et escorte. Ah, si Tamara pouvait la voir! Dans un premier temps, la ministre est affable et écoute avec attention le récit que fait Méré des échauffourées avec la police. Puis elle s'inquiète de savoir si leur groupe de femmes est manipulé. Méré s'en défend.
Oui, vous voulez me faire croire qu'une bande de femmes analphabètes, de petites tâcheronnes qui vivent à la petite semaine, ont pris l'initiative de monter une marche de protestation devant un commissaire de police sans quelqu'un derrière tirant les ficelles?
Vos propos m'étonnent, madame. Comment pouvez-vous dire que vous militez pour les femmes si vous tenez des propos aussi méprisants à leur égard?
Ce n'est pas du mépris. Je connais ma gent mieux que vous.
Vous parlez comme les blancs qui disaient « je connais mes nègres ». Nous ne sommes pas vos négresses, madame.
La ministre pense que Méré et ses amis voulaient profiter de la réunion des premières dames d'Afrique pour foutre la pagaille. Elle lui demande ce qu'il faut pour arrêter leurs revendications. Méré réclame la restitution des sacs et une sanction pour ceux qui les ont attaqués. La ministre acquiesce et promet de plaider pour que l'État prenne en charge la facture d'hospitalisation de Batatou. Elle informe Méré qu'elle est intervenue personnellement auprès du ministre de l'Intérieur dès qu'elle a eu connaissance de l'emprisonnement des femmes. Ce dernier l'a rembarrée et elle a joint par téléphone la femme du président qui a fait le nécessaire pour les libérer. La ministre lui réitère sa promesse de récupérer les sacs de cailloux et d'aider le groupe à couvrir les frais d'hospitalisation de Batatou et en échange lui demande d'arrêter les manifestations, donnant-donnant, gagnant-gagnant. Méré sort du bureau climatisé de la ministre et se retrouve dans la moiteur de la rue, un peu déboussolé, partagé entre antipathie et admiration envers la ministre. Elle s'installe dans un café et la sonnerie de son téléphone retentit. C'est le secrétariat de la ministre qui la convoque en urgence pour l'informer que la femme du président l'attend. Elle se rend au palais présidentiel dans la fourgonnette qu'il a enlevée le matin et prévient Laurentine Paca, car la règle numéro un dans ce pays est d'avertir où l'on va. Après une fouille et la confiscation de son portable, Méré pénètre dans le palais présidentiel. La présidente vêtue à l'africaine, lui déclare son estime et lui demande d'arrêter leurs revendications. Elle lui parle de Tito, de Tarama, et lui précise son intervention dans la libération de ses camarades.
Je sais que vous avez besoin de 120 000 francs.
Elle lui tend une enveloppe.
Il y a dans cette enveloppe bien plus qu'il en faut pour vous en sortir. Pour vos études, pour votre avenir. Elle est à vous. Ce qui se passe dans ce bureau reste dans ce bureau. Personne n'en saura jamais rien. Allez, tenez.
Mary contemple encore l'objet quelques instants, puis brusquement le prend et le fourre dans son sac à main.
N'en faites pas un problème plus qu'il n'en faut, ma fille. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas la première à être raisonnable et à choisir où sont vos priorités. Dans 2 heures environ, une équipe de télévision se trouvera à l'endroit où vous allez tenir votre réunion pour enregistrer votre communiqué annonçant que vous avez décidé de surseoir à vos revendications jusqu'à la fin de la réunion des premières dames d'Afrique. Ce ne sera pas une trahison, mais un geste patriotique envers la nation.
Des coups de klaxon projettent Méré hors de ses pensées. C'est Armando.
J'avance vers Armando qui abandonne son taxi pour venir vers moi, les bras ouverts. Spontanément, je me précipite aussi et tombe dans ses bras. Il me serre fort et je le serre aussi. Je suis contente de ce contact charnel, de cette chaleur réconfortante après 2 duels sans merci et intellectuellement épuisant avec 2 femmes de pouvoir. Cela me fait du bien de sentir cette main qui me passe sur le dos.
Elle confie l'enveloppe encore scellée à Armando. Quand le taxi d'Armando arrive devant sa parcelle, ses camarades de chantier accourent et applaudissent. Méré fait son rapport de la journée et il s'ensuit une discussion sur l'utilisation du 1 000 000 de francs contenu dans l'enveloppe. Il est décidé de le donner à Batatou pour payer ses frais d'hôpital et de le faire savoir à la radio et à la télé et de continuer leurs revendications. Méré est chargée de rédiger la déclaration, mais elle propose que Bilala, la plus villageoise, la plus analphabète, qui la présente à la presse dans sa langue, le Kikrougo. Le lendemain matin, Méré reçoit un appel téléphonique de Atareta qui lui annonce la gravité de l'état de Batatou. Armando et Méré se dirigent vers l'hôpital, se font passer pour les proches de Batatou. L'infirmier leur précise que le corps de Batatou ne leur sera remis qu'après paiement des frais d'hospitalisation et de morgue. De plus, l'ascenseur étant en panne, c'est à eux de descendre le corps, ou de recourir à ceux qui en font leur gagne-pain. Cette pratique scandaleuse est connue d'Armando, qui se charge de la négociation et explique son ressenti à Méré.
Armando est chauffeur de taxi, Madame Mériana, lance-t-il soudain irrité. Elle ne sait pourquoi. Si tu savais tout ce qu'il a vu dans ce pays, si tu savais combien de fois il a transporté des morts et des mourants dans son taxi parce qu'il n'y avait pas d'ambulance, si tu savais combien de bébés il a vu mourir de convulsions paludéennes, faute d'une injection urgente parce que l'hôpital n'avait pas une seule seringue. Êtes-vous capable d'imaginer le désespoir des parents après avoir dépensé une fortune en taxi pour faire la ronde des pharmacies de nuit, à la recherche d'ampoules de soluté de Kinimax? Regarde, impuissant leur enfant convulsé à mort parce qu'ils n'ont pu trouver une seringue pour lui injecter la solution salvatrice. Armando pourrait continuer ainsi, madame. Heureusement, Dieu merci, il y a des gens qui savent tirer profit de la situation. Il n'y a pas d'eau courante à l'hôpital. Alors, il y a des gens qui montent et descendent les escaliers pour vous vendre des bidons d'eau. Il n'y a pas de toilette. Alors, il y a des gens qui parcourent les salles, offrant de vider les seaux d'excréments ou de pansements souillés. Il n'y a pas d'ascenseur. Alors, il y a des gens qui vont et viennent dans les couloirs, offrant de transporter par les escaliers les corps des malades qui ont eu la mauvaise idée de mourir à l'étage. Ainsi, les malades ont de l'eau. Les excréments sont évacués, les cadavres sont portés à la morgue, tout fonctionne donc bien. Alors pourquoi s'en plaindre? Et si le peuple n'y trouve rien à redire, pourquoi se décarcasser à changer les choses puisque ce qui est routine quotidienne ailleurs est miracle ici? C'est un miracle. Quand on tourne le robinet et que l'eau coule, c'est un miracle. Quand en appuyant sur le commutateur, l'électricité jaillit, c'est un miracle. Quant à l'hôpital, on vous offre un comprimé gratuit d'aspirine. Voilà la réalité de notre pays. Armando est au-delà de l'indignation, madame. Et il n'en veut pas du tout à ce pauvre garçon, parce que lui aussi ne fait que profiter du système. Vous pouvez être sûr qu'il est de connivence avec ses porteurs de cadavres et qu'il touchera sa commission sur ce que nous allons leur payer. N'est-ce pas lui qui leur a procuré la marchandise? En attendant, je vais trouver quelque chose de plus décent pour recouvrir Batatou. Je vous retrouve en bas.
Au bout d'un moment, Armando ressort de l'hôpital avec un reçu qu'il tend à Méré. C76A. C'est le numéro du casier où repose Batatou. Les larmes se mettent de nouveau à ruisseler sur les joues de Méré. La nouvelle de la mort de Batatou s'est propagée et une de ses voisines se manifeste. Il décide de la rencontrer. Elle s'appelle Adama et connaît Batatou sous le nom de Vutella. En l'absence de toute la famille, elle était devenue sa seule amie. À l'intérieur de la maison de Batatou trône la photo du groupe de femmes du chantier prise par Laurentine Paca.
Vous qui êtes son amie, parlez-nous d'elle. Je représente les femmes du chantier et vous pouvez nous faire confiance comme elle nous faisait confiance. Nous étions devenues sa seule famille. En ce moment, l'un de ses enfants est avec moi et l'autre avec l'une d'entre nous. Parlez-nous d'elle.
Ce ne sont pas des choses que l'on raconte facilement. La folie meurtrière des militaires vainqueurs s'est abattue sur notre quartier alors que nous revenions du marché. L'attaque était si soudaine et inattendue que la panique était générale. Nous avons détalé en abandonnant nos marchandises. Nous avons couru toutes les deux ensemble, elle et moi. Malgré notre allure, les coups de feu se rapprochaient. De toute façon, nous étions à bout de souffle. En un coup d'œil, nous avons repéré dans une parcelle, perdue dans de hautes herbes, une maison délabrée dont une partie du mur frontal s'était écroulée. La partie encore debout, retenant un cadre de bois sans porte. Il n'y avait pas de toit. C'était tout ce qu'il nous fallait comme refuge. Nous nous sommes précipités, non pas à l'intérieur, mais derrière le mur arrière, au cas où il déciderait quand même de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la masure. Nous y avons trouvé un homme qui lui aussi avait eu la même idée et, tremblant de peur, il a placé son index sur ses lèvres, nous signifiant ainsi de ne pas faire de bruit. Je pense que les soldats nous avaient vus entrer dans la parcelle, parce qu'à peine étions-nous installés derrière le mur qu'ils y pénétraient. À grand bruit, ils ont regardé à l'intérieur de la maison, comme nous l'avions pensé, Et ne trouvant personne, ils en ont fait le tour. Nous étions là, trois êtres apeurés. Ils étaient quatre soudards armés. L'homme qui était avec nous s'est immédiatement jeté à genoux, implorant qu'on lui épargne la vie. Ils ne l'ont même pas écouté, et une balle dans la tête l'a fait basculer en arrière. Ils se sont jetés sur nous, nous lançant les propos les plus orduriers. Lorsque le premier a commencé à dégrafer sa braguette, Vutella est devenue folle. Elle s'est mise à hurler « Tuez-moi, je préfère que vous me tuiez !» Deux sont passés sur moi, deux sur Vutella. Je souffrais beaucoup plus pour elle que pour moi, parce qu'elle était vierge quand ses soldats l'ont assaillie. Aucun homme ne l'avait touchée auparavant. N'est-ce pas terrible que son premier contact sexuel avec un homme ait été cela, et qu'elle se soit retrouvée enceinte des triplés ?
À la suite de ce viol, Adama n'était pas tombée enceinte.
Oui, mais j'ai perdu mon mari. Lorsqu'il a appris que j'avais été violée, il m'a chassée sans façon de sa maison en disant que j'étais une femme souillée. Il n'a jamais compris ma souffrance.
L'argent détourné de l'enveloppe de la femme du président permet de faire des obsèques pas simplement dignes, mais grandioses à Batatou. C'est dans le cimetière du centre-ville, là où on enterre tous les hommes politiques, que Batatou sera inhumé. Le lendemain, un coup de téléphone de la ministre de la Femme et des Handicapés avertit Méré que leurs revendications sont acceptées. Elles pourront désormais vendre leur sac de pierre à 20 000 francs. Et quant au sac perdu, chacune percevra la valeur de 5 sacs à 20 000 francs. Alors que Méré la remercie, elle ajoute qu'elle a de l'admiration et de l'estime pour elle. Et que grâce à leurs revendications, les casseuses de cailloux ont redonné de l'importance au ministère de la Femme et des Handicapés. D'ailleurs, elle lui propose de travailler avec elle au ministère. Méré va y réfléchir.
Elles sont contentes lorsqu'elles sortent de la banque. Chacune mesure sa victoire par ses 10 billets flambant neufs de 10 000 francs. Tant de billets neufs m'épatent. Ces gens les fabriquent-ils tous les matins ? Je regarde Bilala, notre villageoise, qui sort une fois encore ses billets, les recompte, incrédule, avant de les remettre dans leur enveloppe. Que se passe-t-il dans la tête d'une personne qui voit son rêve en grande partie réalisé ? Après une brève concertation, nous arrêtons l'heure à laquelle nous devons toutes nous retrouver à l'aéroport pour dire au revoir à Zizina, la fille de Mabileko, puis chacune s'en va de son côté.
Elles sont rassemblées dehors, avant d'entrer en délégation dans la salle d'attente, où après avoir terminé l'enregistrement, Zizina les attend. Elles sont toutes sur leur 31, comme si c'était un jour de fête. Eh mais c'est un jour de fête après tout. Une de leurs filles, une fille de casseuse de cailloux, s'en est sortie et s'apprête à prendre l'avion pour rejoindre les hommes et les femmes qui essaient de défendre l'ordre et la paix sur cette planète. Ce n'est pas rien. En les voyant ainsi bien sapés et en délégation, l'un des responsables du service de protocole de l'accueil des premières dames invitées pense tout naturellement qu'elles sont l'une des associations de femmes dépêchées pour l'occasion et leur intime l'ordre de se diriger vers le salon d'honneur de l'aéroport. Bileko a tenu parole. Elle n'a pas informé sa fille que les caisseuses de cailloux viendraient à l'aéroport saluer son départ. Celle-ci pousse un cri de surprise. Anne-Marie lui tend le cadeau qu'elles ont acheté, une montre qui indique l'heure locale et l'heure universelle. Elle attache le bracelet métallique autour de son poignet. Les yeux de Zizina, embués, luisent d'émotion. dernières embrassades, et avant d'entrer vers la porte d'embarquement, elle se retourne, soudain inspirée.
Je vous demande une faveur, j'aimerais avoir une photo de vous toutes ensemble au chantier. Une photo de groupe, je la garderai avec moi dans ma chambre.
Ainsi se termine cette chronique, dont Annie, Anne, Denise, Christine, Gabriel, Armel, Valérie, Yvan, Philippe, Dominique vous ont lu quelques extraits. Si ce récit d'Emmanuel Dongala vous a intéressé, vous pourrez le lire en intégralité. Il a été publié en 2010 aux éditions Actes Sud. Pour cet ouvrage, cet auteur congolais, par ailleurs chimiste et homme de théâtre, a obtenu le prix Virilo en novembre 2010. La technique était assurée par Vincent et Claude Michel. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez